Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Emmanuelle Payen, la nouvelle directrice du département du développement culturel et du cinéma, qui a été créée en septembre dernier à la Bibliothèque publique d'information. Je suis donc très émue de prendre la parole pour la première fois auprès de cette belle assemblée. C'est très impressionnant de vous voir tous ici et nous en réjouissons. La Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou est ce soir, comme souvent, et grâce à vous, un lieu de cinéma. Mais elle est dans le même temps, tous les jours, et en ce moment même au-dessus de nos têtes, une bibliothèque, un lieu de lecture et de découverte. Et je peux dire tous les regrets de Christine Carrier, qui est la directrice de la BPI, de ne pas pouvoir être avec nous ce soir. Homme d'images et de sons, mais aussi de mots et de livres, c'est un lieu pour Claude Lanzmann, qui était véritablement une bibliothèque vivante et un auteur. On m'a dit qu'il pouvait réciter de tête un grand nombre de poèmes, comme Le bateau ivre ou Les chercheuses de poux d'Arthur Rimbaud. Comme nous nous y attachons depuis 2018, cette programmation cinéma se fait la main dans la main avec la Cinémathèque du documentaire. Et je salue ici Anne Montou, qui prendra la parole après moi. Nous sommes heureux et fiers d'accueillir jusqu'au 18 décembre, ensemble, cette œuvre décisive, exigeante et grave. Elle est le fruit d'une première vie, demi-vie en dehors du cinéma, marquée par la guerre et la résistance, la philosophie et le militantisme anticolonial, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre et la Revue des temps modernes, le journalisme et les voyages en Chine, en Égypte ou en Corée du Nord, en Algérie et en Israël. Le cinéma de cet autodidacte contient tout cela. C'est la source de sa singularité, de ses recherches et de sa liberté. Cette rétrospective qui se déroule devant nous réunit de nombreux partenaires que nous remercions pour leur investissement, pour la célérité avec laquelle ils se sont associés à la rétrospective. Je salue d'abord Dominique Lanzmann, ici présente. Présidente de l'association Claude et Félix Lanzmann, qui a porté avec le musée juif de Berlin l'inscription de Shoah au registre Mémoire du monde à l'UNESCO, effective depuis mai dernier. Nous attachons également une grande importance à nos trois autres partenaires qui portent haut les valeurs de culture, de mémoire, de refus des discriminations, des valeurs si précieuses. Le mémorial de la Shoah, merci à Julie Meck et Sophie Nagiscard, présentes ce soir. Le musée d'art et d'histoire du judaïsme, la fondation pour la mémoire de la Shoah, représentée ce soir par Isabelle Dubois. Je salue enfin l'Institut national de l'audiovisuel et nos deux partenaires médias, Télérama et les Cahiers du cinéma, qui ont chacun consacré un article à la rétrospective dans leur dernier numéro, en plus de toute la presse qui a salué cet événement ces jours derniers. La Bibliothèque publique d'information remercie chaleureusement tous les intervenants et toutes les intervenantes, très nombreux et d'une rare qualité, des proches, des partenaires de travail, des cinéastes, des chercheuses, des chercheurs, tout particulièrement Caroline Champetier, Yaël Perlov, Corinna Koulmas, Jennifer Cazenave, Anya Chepanska, David Frankel et Arnaud Desplechin, pour leur aide et contributions généreuses et fertiles à la programmation, en plus de leurs interventions à venir dès demain pour Arnaud Desplechin. Et je remercie chaleureusement tous mes collègues de la BPI qui ont contribué à la conception et l'organisation de cette rétrospective, en particulier, bien entendu, Arnaud Hay, qui a eu la charge de cette programmation et s'y est investi et s'en est acquitté avec beaucoup de professionnalisme et de sensibilité. Bravo Arnaud. Mais aussi l'ensemble des équipes du service cinéma, du service de la régie, du département des publics, des services administratifs qui ont accompagné la préparation de cet hommage. Nous affirmons avec cette rétrospective que l'œuvre de Claude Lanzmann est au présent, pour notre présent, comme tous les films que nous montrons. Ces films sont, cet automne, libanais et américains, iraniens et chiliens, allemands et polonais, guatémaltèques et chinois. Les films, les œuvres d'art que nous défendons se parlent toujours. Espérons qu'ils nous aideront à faire de même. Bonne rétrospective à toutes et tous.
Bonsoir à toutes et tous. Je suis donc Anne Moutot, directrice adjointe de la Cinémathèque du documentaire, et au nom de toute l'équipe, je suis très heureuse de vous accueillir également dans le cadre de la Cinémathèque du documentaire à la BPI pour l'ouverture de cette rétrospective consacrée à l'œuvre de Claude Lanzmann, qui, comme l'a dit Emmanuel, comme toute œuvre patrimoniale, fait écho au présent, mais qui, dans le contexte actuel, résonne particulièrement fortement. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des partenaires de la Cinémathèque du documentaire. Ils sont nombreux. La SCAM, le CNC, la BPI, bien évidemment, la BNF, la SACEM, le groupe France Télévisions, l'Image en Bibliothèque, il y a également filmdocumentaire.fr et Ardèche Images, auxquels se sont joints le groupe Audience et la chaîne Arte. Tous ces partenaires qui se sont regroupés au sein de la Cinémathèque pour rendre plus accessible et visible la création documentaire en facilitant la circulation des œuvres à Paris, comme ici, au Centre Pompidou, grâce au travail de la BPI, mais également sur tout le territoire national, à travers un réseau de 80 structures qui diffusent le documentaire dans tous les coins de la France, y compris dans des endroits très isolés, et que la Cinémathèque soutient dans son action. Je voudrais évidemment saluer le travail effectué par les programmateurs de la BPI, qui offrent, comme l'a dit aussi Emmanuel, une sélection très riche et variée, quasiment quotidienne, au Centre Pompidou. Et rendre du coup hommage aussi à Arnaud, qui travaille depuis de longs mois sur la conception de cette rétrospective. Merci beaucoup d'être là et si nombreux, et je vous souhaite une très bonne soirée. Et je passe la parole à Arnaud.
Bien, bonsoir à toutes et tous. Je vais vraiment être très bref, puisque nous allons commencer cette séance tout de suite en se rendant au cœur de l'œuvre de Claude Lanzmann, en étant plongé dans la salle de montage de Shoah. Shoah qui sera montrée demain et dimanche à 15h, début du film à 15h, accompagné notamment par Corinna Koolmaas, qui est ici, que je remercie, par Francine Kaufmann. Oui, c'est intéressant. Par Francine Kaufmann également, traductrice du film pendant le tournage de Shoah, et le film sera présenté par Arnaud Desplechin. Donc on part pour quelques minutes dans cette salle de montage avec un extrait de Diary de David Perloff, où on va retrouver Ziva Postek, grande évidemment figure de ce film, qui a été chef monteuse du film, Yael Perloff et Claude Lanzmann. Bien, je remercie le distributeur et éditeur Au Revoir et Pip Chodorov tout particulièrement, qui ont nous beaucoup aidé pour le matériel de ce magnifique film Diary de David Perloff. Et je vous demande d'accueillir Yael Perloff. Que je remercie très fort, qui a animé la fin de cette programmation avec beaucoup d'énergie. Et merci beaucoup, Yael. Je te passe le micro maintenant.
Et bonsoir. Je vais faire très là, comme ça je peux. Et bonsoir, messieurs et dames. Est-ce que j'ai changé? Merci. Bon, alors, je suis désolée, je dois lire. Bon, alors bonsoir à tous et à tous. Et je suis arrivée à Paris à l'âge de 23 ans pour un entretien d'embauche avec Claude Lanzmann. Geneviève, son assistante monteuse depuis 3 ans, allait quitter son poste et il fallait lui trouver une remplaçante. Je me suis rendue au studio LTC à Saint-Cloud. Lanzmann m'a demandé de sortir de la salle de montage pour discuter en privé. Nous avons commencé à marcher de long en large dans les couloirs. Je n'osais pas les regarder et essayais juste de m'adapter à son rythme. Nous avons marché jusqu'à bout du couloir, puis fait demi-tour. J'ai commencé à répondre à ses questions sans les regarder. Quel âge as-tu? Où es-tu né? Où ta mère est-elle née? Comment va ton père? J'ai répondu poliment. Soudain, il s'est arrêté. Alors moi aussi, je me suis arrêtée tout de suite. Immédiatement arrêtée. Combien de langues parlez-vous? Je dis 3, hébreu, anglais et français. Allemand? Non. Son regard était perçant, mais plein d'humanité. Il m'a fixé un instant, puis nous avons repris notre marche. J'étais embauchée. J'ai travaillé dans la salle de montage pendant plus de 2 ans. J'étais à côté de Ziva Postek. Je suis arrivée alors que le film durait 3 heures et je suis partie une fois le montage image terminé lorsque le film atteignait 9 heures. Il m'est difficile de décrire en mots cette période où je travaillais à ses côtés. Je suis moi-même la fille d'une survivante de la Shoah, ma mère Mira Perloff, qui m'a jamais parlé de tout cela. J'ai vécu l'expérience profonde de découvrir les témoignages des survivants jusqu'à apprendre leurs textes par cœur. L'inoubliable interview de Lanzmann avec Raoul Hilberg, j'ai demandé à montrer les photos, Raoul Hilberg boycotté par Israël à l'époque, a marqué ma vie. Dans la bibliothèque de Lanzmann, j'ai trouvé les poèmes de Heinrich Heine ainsi que les livres de Raoul Hilberg que j'ai dévorés avec avidité. Permettez-moi d'ajouter quelques mots supplémentaires sur Raoul Hilberg. Raoul Hilberg est un historien juif américain d'origine autrichienne. après avoir un accès aux archives du Troisième Reich, saisi par l'armée américaine, Hilberg décide d'écrire sa thèse doctorale sur la bureaucratie sous l'Allemagne des nazis. Il éprouve de grandes difficultés à la faire publier, mais l'ouverture des procès Eichmann en 1961 redonne de l'intérêt à cette période, permettant la publication de cette œuvre. De 1961 à octobre 2012, le mémorial de Yad Vashem a refusé de publier les livres. Des critiques principales sont soulevées contre Hilberg. Premièrement, qu'étant un juif autrichien ayant émigré aux États-Unis au début de la Seconde Guerre mondiale, il ne maîtrisait pas l'hébreu, le yiddish ou les langues d'Europe de l'Est comme les polonais ou les russes, et avait donc écrit son livre en se basant uniquement sur des sources allemandes. Deuxièmement, que malgré cela, Hilberg n'avait pas hésité à critiquer dans son livre le fonctionnement des communautés juives et des Judenrat qu'il considérait avoir aidé la machinerie nazie d'extermination dans la continuité de la politique traditionnelle de soumission des juifs de la diaspora. Les relations tendues, vous pouvez... J'attends. réponds. On a le temps. Je continue ?
Oui.
Ouais. Oui. Deuxièmement, que malgré cela, Hilberg n'avait pas hésité à critiquer dans son livre « Fonctionnement des communautés juives et des Judenrat » qu'il considérait avoir aidé la machinerie nazie d'extermination dans la continuité de la politique traditionnelle de soumission des juifs de la diaspora. Je continue là. Les relations tendues entre Yad Vashem Qu'est-ce que je vais faire alors? D'accord. Merci. Les relations tendues entre Yad Vashem et Hilberg prennent heureusement fin en 2004 lorsque Hilberg est invité comme intervenant clé pour le 5e anniversaire de Yad Vashem. En 2012, la première traduction intégrale en hébreu de son livre est publiée par Yad Vashem et Hilberg a donné au musée les droits sur les livres gratuitement. Voilà. Retournons à la salle de montage de lancement. Son dévouement total et sans compromis pour son travail, lui et Ziva Postek, la monteuse aussi, sa capacité à approcher avec lenteur, respect et infinie sensibilité les personnages du film jusqu'à larmes ont marqué ma vie, non seulement au cinéma, mais dans la vie réelle. Je pense que c'est aussi une partie de l'héritage professionnel que Lanzmann a laissé derrière lui. Il s'est farouchement opposé à l'utilisation d'archives dans les films et il avait raison. Aujourd'hui, les roches des films eux-mêmes sont devenues des archives. Les rares interviews des survivants et des nazis sont désormais des archives précieuses. Et pour tout cela, je pense que nous lui sommes tous, me semble-t-il, reconnaissants jusqu'à ce jour. Je voudrais remercier Arnaud et toute l'équipe pour cette belle initiative de rendre hommage à Lanzmann. Je tiens également à remercier et saluer personnellement sa femme Dominique. J'ai eu la chance de rencontrer Félix, ton fils, et le fils de Claude. C'était ici, au Centre Pompidou, lors de la projection du film de mon père, Mémoire du procès Eichmann, en 2011, lorsque nous avons fait la restauration des films. J'ai été émue de les connaître, Dominique, et sa présence m'a marquée. Merci aussi à Esther Lenneman qui m'a aidée à écrire ces textes. Et pour terminer, je n'étais pas censée être ici pour vous parler aujourd'hui. J'ai quitté Israël il y a quelques jours. Tel Aviv est bombardé plusieurs fois par jour par des pluies de roquettes et les terribles nouvelles des deux côtés n'ont cessé d'accroître l'angoisse, difficile à exprimer encore une fois un mot. Trois de mes étudiants au cinéma de l'Université de Tel Aviv ont été assassinés le samedi 7 octobre au matin. Et pourtant, j'ai mes doigts de dire ceci, et avec ça je termine. La plupart des civils assassinés ce samedi matin dans des localités près de la frontière appartenaient au camp de la paix qui croyait au dialogue avec les voisins palestiniens de l'autre côté des frontières. C'était aussi des gens qui se sont battus contre le gouvernement antidémocratique qui menaçait Israël l'année dernière. Mais la guerre ne fait pas de distinction et cette réalité est douloureuse, ne laissant aucun répit. J'espère qu'on ramènera les otages et que les morts resteront à jamais dans les mémoires. Merci beaucoup.
Bien, merci beaucoup Yael Perloff pour ce un peu plus qu'un discours. J'appelle Dominique Lanzmann à me rejoindre.
C'est très très émouvant. Je suis très heureuse d'être devant vous ici et grâce à Arnaud qui a eu cette idée formidable, je crois en décembre ou janvier, sans savoir que Shoah allait entrer à la mémoire de l'UNESCO. Et les deux événements se conjuguent. Et je voudrais dire ici que je voudrais rendre hommage à notre équipe qui a monté ce dossier d'UNESCO. La petite équipe de l'association Claude et Félix Lanzmann, nous avons monté ce dossier qui était très... Alors Corinna Koulmaz qui est là devant vous, l'assistante principale de Claude pour Shoah, et puis Benjamin Delattre, un ami de Félix présent ce soir aussi, qui est cinéaste, et Marc Sagnol qui est à Moscou, qui ne peut pas être ici, et notre juriste aussi qui est en Turquie n'a pas pu être ici. Voilà. C'est notre petite équipe qui a déposé cette candidature de Shoah. Et nous avons des projets aussi pour la suite, en particulier de traduire l'outil pédagogique développé par Claude Lanzmann avec Jean-François Forge, de le traduire dans toutes les langues grâce à l'UNESCO, dont c'est un des piliers, la pédagogie. Donc dans les 195 pays de l'UNESCO, y compris dans les pays arabes, avec l'aide du projet Aladdin. Je crois que c'est tout.
Vous dites ce que vous voulez, Dominique, mais oui, vous avez déjà beaucoup dit.
C'est maintenant que je présente les orateurs.
Alors, on avait répété, mais là je vais dire un petit quelque chose. Voilà. Donc, merci Dominique et merci pour aussi le travail ensemble. On a beaucoup échangé. Et oui, donc on avait aussi échangé rendre présent, bien sûr, Claude Lanzmann ce soir de diverses façons. On l'a vu en salle de montage, on va le voir dans deux films de Claude Lanzmann, téléaste, on va dire, en tout cas journaliste. Et déjà, vous allez voir, je crois que quelque chose de l'entretien, de la pugnacité de l'intervieweur. Et puis, on a eu très vite l'idée de le rendre présent aussi comme homme de lettres et de mots par le Lièvre de Patagonie, en vous proposant quelques lectures du Lièvre de Patagonie. Et c'est là maintenant, Dominique, vous allez nous présenter les lectrices et lecteurs. Voilà. Vous pouvez reprendre la parole. Par exemple, là.
Alors, les lecteurs et lectrices seront successivement Judith Magre. Est-il besoin de vous la présenter? Cette grande actrice qui, plusieurs fois moliérisée, trois fois, je crois, au moins, ça prendrait des heures de vous énumérer toutes les pièces, tous les films dans lesquels elle a joué. Et actuellement, surtout, allez la voir tous les lundis soirs au théâtre de Poche Montparnasse, où elle joue une pièce de Sylvain Tesson, tous les lundis à 19h. Et donc Judith, quand elle va vous faire sa lecture, sachez qu'elle a bien connu et aimé tous les personnages décrits par Claude dans Le Lièvre, et toute la famille de Claude, bien sûr, puisque Judith a partagé la vie de Claude même plusieurs fois, en plusieurs phases. Ça fait, il y a une passion de jeunesse, et puis ensuite il y a eu le mariage, et puis ensuite une amitié indestructible. Ensuite, le professeur Didier Sicard. Ensuite, c'est Jérôme Clément, pardon. Jérôme Clément, alors est-il besoin de le présenter lui aussi, le fondateur d'Arte, qui vous racontera lui-même brièvement comment il a connu Claude avant sa lecture. Et bien sûr, Jérôme Clément est un homme de central de la culture en France, un écrivain aussi. Son livre, Plus tard tu comprendras, avait beaucoup ému Claude. Et leur amitié date de la réalisation de Shoah. Ensuite, le professeur Didier Sicard, qui est un très grand ami de Claude depuis la sortie de Shoah, en fait. Il a écrit une lettre à Claude et depuis, ils sont devenus de très grands amis pendant plus de 35 ans. Et ce grand professeur de médecine que vous connaissez tous, qui est président d'honneur du comité consultatif d'éthique, dont le diagnostic est légendaire, du genre de... qui fait le diagnostic en voyant entrer le patient dans son bureau. Enfin, c'est un très grand médecin. Et il était aussi le médecin de Claude, d'ailleurs, et aussi de Félix. Voilà.
Je vous demande pas de vous présenter, Dominique.
Si. Bon, je peux me présenter. Je suis médecin, chercheur, spécialisé en santé publique, en gériatrie et en nutrition. Et actuellement, je travaille à l'hôpital Sainte-Périne de la PHP.
Merci beaucoup, Dominique. Alors, il se trouve que Yaël Perloff a pris mes notes, mais je vais essayer de faire de mémoire. donc, on va commencer par deux premières lectures. Non, tout va bien, Yaël, je vais normalement m'en sortir. Donc on va commencer par deux lectures. Je vous décris un peu la séance qui est un petit peu singulière. Merci. Donc par deux premières lectures, par Judith Magre, puis Jérôme Clément. On aura ensuite un court-métrage, un premier film qui est un de ces entretiens menés par Claude Lanzmann avec Pierre Cardin. Puis on aura deux nouvelles lectures et on finira par un entretien de Claude Lanzmann avec Delphine Seyrig. Voilà. Donc je vous demande, et je vais aller la chercher, je vous demande d'accueillir Judith Magre.
Avec les premières lois raciales, d'octobre 1940, celle plus draconienne de juin 1941. L'enflure quotidienne... Comment ? Tout va bien. Tout va bien. On m'entend pas ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Tout va bien, continuez.
Hein ?
Tout va très bien. Tout va bien, continuez.
Ah bon. Bon, alors je recommence pas. sans rien savoir alors des déportations à venir et évidemment de la solution finale, mais averti sûrement des arrestations de juifs étrangers qui commencèrent dans le sud dès la promulgation des lois d'octobre et des rafles massives de mai ou et décembre 1941 en zone occupée, il était animé des plus noirs pressentiments. Sauver ses trois enfants, je ne l'ai vraiment compris que plus tard, était son souci majeur. Pendant plusieurs nuits, il avait creusé, seul, au fond du jardin, une cache souterraine profonde dans laquelle nous aurions à nous réfugier en cas d'alarme. L'ouverture de cette grotte, située à environ 150 mètres de l'arrière de la maison, était masquée par des branchages. Un jour, une nuit plutôt, l'entraînement commença. Mon frère et moi partagions la même chambre. Ma sœur Evelyne occupait une pièce contiguë. J'oublie de dire que notre père, armé d'une burette à huile, avait graissé chaque porte, chaque gros, chaque serrure de chaque étage avec un soin maniaque. On pouvait se déplacer sans un bruit dans cette demeure surnaturellement silencieuse. Il avait même trouvé le moyen, car il était bricoleur et adroit de ses mains, d'étouffer les crissements des lattes des parquets et le gémissement des escaliers. Quand venait l'heure de nous coucher et de nous mettre au pyjama, il restait près de nous et nous apprenait à disposer nos vêtements dans l'ordre très exact du rhabillage. Il nous avertissait. Nous savions que la cloche de la porte extérieure nous réveillerait en plein sommeil et que nous aurions à fuir comme si la Gestapo surgissait. « Votre temps sera chronométré », disait-il. Nous ne prîmes pas très longtemps la chose pour un jeu. C'était une cloche au timbre puissant et clair actionnée par une chaîne. Et soudain, cet inoubliable carillon impérieux de l'aube, les allers-retours du battant de la cloche sur ses parois, marquant sans équivoque qu'on ne sonnait pas dans l'attente polie d'une ouverture, mais pour annoncer une brutale effraction. Sursaut du réveil. L'un de nous secouait notre petite sœur au lourd sommeil. Nous nous vêtions dans le noir à grande vitesse, avec des gestes de plus en plus mécanisés au fil des progrès de l'entraînement. Dévalions les deux étages sans un bruit et dans l'obscurité totale. Ouvrions comme par magie la porte de la cour et foncions vers la lisière du jardin. Écartions les branchages, les remettions en place après nous être glissés l'un après l'autre dans la protectrice en fractuosité, et attendions souffle perdu hors d'haleine. Nous l'attendions, nous le guettions. Il était lent ou rapide, cela dépendait. Il faisait semblant de nous chercher et nous trouvait sans jamais faillir. À travers les branchages, nous apercevions ses bottes de SS et nous entendions sa voix angoissée de père juif. « Vous avez bougé, vous avez fait du bruit !» « Non, papa, c'était une branche qui a craqué. Vous avez parlé, je vous ai entendu, il vous aurait découvert. » Et cela continuait jusqu'à ce qu'ils nous disent de sortir. Ils ne jouaient pas. Ils jouaient les SS et leurs chiens. Les entraînements avaient lieu de façon irrégulière. Les heures de réveil en sursaut étaient changeantes, mais l'exercice payait. Nous battions des records absolus de vitesse. Nous pulvérisions chaque fois la performance précédente. Le dernier chronométrage indiquait qu'entre le saut du lit et le blottissement dans la caverne, 1 minute 29 secondes s'était écoulée. Ni la milice, ni la Gestapo ne sonnèrent à la cloche du portail. Et il est vrai que mon père, engagé tôt dans la résistance, ce que j'ignorais alors, avait pris d'autres contre-mesures après les grandes rafles de l'été 1942. Avec quelques juifs volontaires, soigneusement sélectionnés par lui et dont j'étais, il avait organisé des patrouilles nocturnes à bicyclette qui sillonnaient Brioude et faisait le guet à ses abords sur la route de Clermont-Ferrand ou sur celle de Puy-en-Velay. À partir de novembre 1942, des unités de la Wehrmacht et de la police allemande s'étaient en effet installées à demeure dans notre sous-préfecture, avec une commandanture et tous les services afférents. Ainsi, de l'imminence d'une rafle qui ne trompait jamais, c'étaient les camions. Les camions gris-vert, la couleur des Allemands, comme le dit dans Shoah Michel Potchledik, un des deux survivants de Chelno, mort hélas aujourd'hui. Une concentration de quelques véhicules indiquait que les Juifs recensés comme tels seraient saisis dès l'aube à leur domicile. Nous connaissions nous aussi leurs adresses et la patrouille se dispersait pour avertir chacun de ceux que nous pensions menacés d'avoir à se cacher ou à fuir. Nous savons qu'à deux reprises, et grâce à nous, ceux qui vinrent les arrêter en furent pour leurs frais. Chaque fois que je pense à Moni de Bouly et à son apparition si tôt le matin, non pas au portail d'entrée, mais sur l'arrière de notre demeure, à la porte de la cour, comme s'il surgissait du jardin. Ce sont les vers du corbeau d'Edgar Poe qui s'imposaient à mes mémoires, puisque leur excepté, ce n'était pas Bimbi mais la pointe du jour. Ils décrivent au mieux ce que j'ai ressenti. Once upon a midnight, oui, je vais vous le dire, dans la traduction de Baudelaire, une fois sur le minuit lugubre, pendant que je méditais, faible et fatigué, sur bain précieux et curieux volume d'une doctrine oubliée, pendant que je donnais de la tête presque assoupie, soudain, il se fit un tapotement, comme de quelqu'un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. C'est quelques visiteurs, murmurai-je, qui frappent à la porte de ma chambre. Ce n'est que cela et rien de plus. C'était une aube de printemps 1942. Mes petites perceptions, alertées chaque nuit par le dressage paternel, dans l'attente du carillon mortel, devaient veiller encore. Comment se réveillerait-on jamais si on n'était pas déjà éveillé ? J'ai appris cela plus tard à Tübingen en Allemagne de Gottfried Wilhelm Leibniz, sur lequel j'ai fait mon diplôme d'études supérieures de philosophie. Et Moni, lui, était encore en deçà du gentil tapotement du corbeau, de sa douce frappe. Il caressait la porte arrière de la maison avec une délicatesse tellement paradoxale qu'elle me contraignit à quitter ma chambre, à descendre pieds nus les escaliers insonores, comme si c'était moi qui devais surprendre quelqu'un, le prendre au piège, à prêter l'oreille et la tête contre la porte pour élucider la nature de cet effleurement ininterrompu, contraire à toutes les violences promises, et à ouvrir enfin. Devant moi, un inconnu, une légère valise à la main, la quarantaine, haute stature, front immense, les yeux rayonnants de beauté et d'intelligence, la crainte peinte sur tout le visage. Il porte un doigt à ses lèvres, il murmure « Tu es Claude ?» Et ce n'est même pas une question. Puis porte encore ses doigts à ses lèvres et chuchote « Chut, je suis Monsieur Sylvestre. » Je ne savais rien de Monsieur Sylvestre. Abédé Sylvestre, selon sa carte d'identité, qu'il exhiba plusieurs fois devant mon père, levé à son tour. Ses papiers étaient faux. Il était arrivé à Brioude par le train du matin, ayant subi pendant la nuit les tatillons et sévères contrôles allemands au passage de la ligne de débarcation entre la France occupée et la zone dite libre. C'était un acte de courage immense qui aurait pu lui coûter la vie. L'angoisse et l'orgueil, la conscience des risques qu'il venait de courir, la fierté et le soulagement d'avoir réussi se combattaient encore en chacun de ses traits. L'amour seul, l'amour fou qu'il portait à ma mère, lui avait insufflé la force d'affronter pareil danger. Ils sortaient à peine tous les deux des griffes de la Gestapo en allant voir à Saint-Benoît-sur-Loire leur ami Max Jacob. Ils avaient été arrêtés sur un quai de la gare d'Orléans par des miliciens qui chassaient au faciès. Ils ne se trompèrent pas. Ma mère était juive de la façon la plus éclatante. Comme l'a écrit Marthe Robert à sa mort en 1995, « Mon cher Claude, J'apprends la mort de Paulette par Le Monde d'aujourd'hui. Vous savez que je l'ai bien connue. À une certaine époque, j'allais très souvent la voir et je me plaisais beaucoup en sa compagnie. Surtout, j'admirais sa beauté. Elle me semblait incarner toute la noblesse des antiques filles d'Israël. Relisant ces lignes de Barthes, je ne peux m'empêcher de me remémorer les félicitations de M. Lebeg, professeur en Sorbonne, devant qui j'eus à faire un commentaire d'une tragédie de la Renaissance, Les Juifs de Garnier, pour un certificat de licence S-lettres classiques. Cette ancienne femme qui marche la première et quelques grandes dames, je vois qu'on la respecte. Les miliciens orléanais avaient emmené ma mère et son amant, le poète Bonny de Bouly, au siège de la Gestapo où ils furent cuisinés un jour entier. Bonny avait, lors de l'arrestation des papiers au nom de Claude Pascal, Amédée Sylvestre était sa plus récente identité, vieille de quelques jours. C'est pourquoi il ne cessait de se la répéter, à la fois pour l'apprendre et s'en convaincre. Ma mère, quant à elle, avec une inconscience qui n'avait d'égal que sa radicale culture en matière de patronymie juive, s'appelait Aïcha Ben Soussan. Aïcha sonnait peut-être arabe, mais tous les Ben Soussan sont juifs. Elle avait peut-être quelque excuse à l'ignorer. Les Ben Soussan, si nombreux fussent-ils, se trouvaient alors pour la plupart de l'autre côté de la Méditerranée. La guerre d'Algérie n'avait pas eu lieu. À Paris, ce don était seulement exotique. C'est ce qu'elle voulait, croyant que cette étrangeté la protégerait. Moni me raconta que devant ces tourmenteurs allemands, elle s'était montrée indomptable, leur tenant tête sans jamais se laisser démonter, niant avec superbe toute appartenance au peuple élu, désignant une grande photographie de Göring qui ornait le bureau où se déroulait l'interrogatoire. « Voyez votre maréchal », s'était-elle écriée, « il a l'air plus juif que moi ». À l'automne précédent, elle avait réussi à entraîner Moni à l'Opéra de Paris, dont presque tous les fauteuils de l'orchestre au balcon étaient occupés par des officiers nazis en grand uniforme. Parlant et comprenant couramment l'allemand, Moni saisissait au vol les propos incrédules de ceux qu'il voyait se retourner, rangée après rangée, pour dévisager ma mère. Il disait « Regarde, il y a une juive là-bas. » « Mais non, c'est complètement impossible, connerie. C'est certainement une circassienne, etc. » Par instant, certains des interrogateurs, Moni qui attendait son tour, le désuidaient de leurs réflexions. Parce que lui aussi disait farouchement être juif, on lui infligea le test suprême. Il avait déclaré être incirconcis. L'Oberstenforer, qui menait l'enquête, ordonna « Appelez les médecins !» Moni vit à la dérobée deux sbires enfiler chacun une blouse blanche, entendant en même temps ce dialogue « Tu t'y connais, toi, en queue ?»« Un peu !» Il nous raconta tout cela le premier soir à Brioude, son talent de narrateur venu d'un autre monde, le génie surréaliste qu'il habitait et éclaté dès qu'il commençait à raconter sa maîtrise unique de 10 langues, son français d'une recherche admirable, comme seuls les étrangers parviennent à le parler, nous faire passer de l'effroi au rire, de la joie à l'angoisse. 2 années plus tard, la paix revenue, il enchanta dans de mes habits en mimant de la voix et du geste cet insolite examen médical qu'il me faut ici pour suivre son récit. Inutile de dire que, juif de Belgrade, fils de riches banquiers déjà dépouillés et assassinés, sans qu'il le sût encore lors de cette noire journée d'Orléans, il était bel et bien circoncis. Mais j'avais si peur, disait-il, qu'il n'y avait pratiquement rien à voir, rien à montrer. Et saisissant entre l'index et le major de sa dextre l'auriculaire de sa main gauche, il imitait le coup d'œil ultra rapide d'un des prétendus médecins. Et la conclusion sentencieuse de l'examen, verdict de mort ou de vie, « Tout est en ordre, le monsieur n'est pas coupé. » Cette victorieuse épreuve n'était pourtant pas décisive. Les doutes les plus graves subsistaient. Et l'interrogatoire aurait sûrement repris au cours de la nuit ou le lendemain matin, Bonnie et ma mère restant gardées à vue. Si une fée miraculeuse n'était intervenue à la fin du jour, en la personne du commissaire de police d'Orléans, qui connaissait non seulement Max Jacob, mais aussi Moni et Paulette, car il était lui-même poète. Il se porta garant d'eux auprès du chef de la Gestapo et arracha leur libération avec hardiesse et autorité. Il les emmena lui-même à la gare, les mit dans un train en partance pour Paris, leur dit « Ne restez pas ici une minute de plus ». Dans une demi-heure, ils comprendront, vont se remettre en chasse et ne vous lâcheront plus. Quittez immédiatement Orléans et arrivez à Paris. N'allez pas chez vous à l'adresse portée sur vos papiers. Les papiers étaient faux, mais l'adresse vraie. Moni et Paulette qui vécurent à Paris pendant toute l'occupation sont des noms d'emprunt, sans carte d'alimentation. Échangeant 30 fois de domicile, ils reprirent cette nuit-là leur parisienne errance. C'était vraiment la fraternité des poètes. Le commissaire de police s'appelait Jean Rousselot. Il était talentueux, très beau, plaisait aux femmes et finit par abandonner la police pour ne plus se consacrer qu'à la poésie. Ce dont je lui fis reproche quand je le rencontrai pour la première fois. Je ne voulais pas dire qu'il était un mauvais poète, mais au contraire, que la police avait besoin de compter dans ses rangs des hommes de sa trempe, car il était véritablement, comme le disent les juifs Askenaz, lorsqu'ils veulent concentrer en un seul mot les plus hautes vertus d'un homme, un mensch. Voilà, c'est fini.
Bonsoir à toutes et à tous. Dominique, comme vous l'avez entendu, m'a demandé de raconter rapidement, je rassure Arnaud, les circonstances dans lesquelles j'avais rencontré Claude Lanzmann. En fait, c'était en 1984, je crois, 85, lorsque j'étais directeur général du Centre du cinéma. J'avais 39 ans, donc je venais juste d'arriver. Et j'avais entendu parler de Claude Lanzmann, mais c'était avant Shoah et je ne le connaissais pas personnellement. Je connaissais surtout par les temps modernes. Et il me demande rendez-vous, je le reçois dans mon bureau, à l'époque rue de Lübeck. Il m'explique son travail et il me dit « Voilà, c'est un film de 9h30 et je vous demande de me payer une copie supplémentaire. » Alors je lui dis « Mais... je ne vois pas très bien comment je pourrais faire ça. Le film n'existe pas encore. Je ne sais pas si j'ai des crédits pour. Enfin, il faut que j'étudie la question. » Et il me dit « Non, 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 il faut vous me dire oui tout de suite. » Alors, je lui dis « Écoutez, je vous comprends tout à fait votre impatience. Vous avez travaillé beaucoup sur ce film. Mais franchement, je ne vois pas comment je peux vous dire oui avant d'avoir étudié la question, le devis. » Enfin bon. Alors, il me regarde. Il va vers la fenêtre, il y avait un bureau qui donnait sur la rue, je crois que j'étais au premier ou au deuxième étage. Il ouvre la fenêtre, il prend une chaise, il monte sur la chaise et il me dit « Si vous ne me dites pas oui tout de suite, je saute par la fenêtre. » Alors j'étais évidemment totalement interloqué par cette énergumène qui rentrait dans mon bureau, qui me racontait une histoire et qui voulait se jeter par la fenêtre si je ne lui disais pas oui. Et voilà comment est née une amitié qui a duré 34 ans jusqu'à sa mort et on a traversé beaucoup de choses ensemble ensuite évidemment quand je présidais Arte et on est devenus très, très amis. Évidemment j'ai payé la copie. Bon, voilà. Alors, maintenant je vais vous lire un extrait du chapitre 5. Du lièvre de Patagonie. Ma mère décida le lendemain que j'étais fagoté comme un paysan, que mes chaussures à semelles de bois sentaient leur province, qu'il fallait aux pieds de son aîné quelque chose d'autrement élégant, d'une touche plus parisienne, malgré les inévitables semelles de bois. Nous allâmes au magasin Chaussures André, boulevard des Capucines, un célèbre établissement juif, mais arianisé, avec une vaste clientèle, de nombreux vendeurs et vendeuses qui offraient un grand choix. Et ce fut l'origine du drame. Car choisir, c'est tuer. Ma mère était incapable de choisir, elle voulait tout. Je suis comme elle. J'ai pris pour sujet de diplôme d'études supérieures de philosophie les possibles et les incompossibles dans la philosophie de Leibniz. Incompossible, cela veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles ensemble, élire l'une, c'est interdire à l'autre d'exister. Tout choix est un meurtre. On reconnaît, paraît-il, les chefs à leur capacité meurtrière, on les appelle les décideurs, on les paie pour cela très cher. Ce n'est pas un hasard si Shoah dure 9h30. Les vendeuses s'adressaient à moi, mais c'est ma mère qui répondait à ma place. Pour elle, j'étais encore le gamin qu'elle n'avait pas revu depuis presque 4 ans. Elle le faisait en bégayant de plus en plus, c'est-à-dire en prenant de plus en plus de temps, car elle tenait absolument à achever chacune de ses phrases, ne supportant pas d'être comprise avant de les avoir terminées elle-même, ni qu'on osât le faire pour elle. Il fallait qu'elle aille jusqu'au bout des syllabes, jusqu'à la profération dernière. Les cartons s'amoncelaient autour du tabouret d'essayage, rien ne lui plaisait. Et si d'aventure elle commençait à hésiter entre deux modèles, l'angoisse du choix, du va-et-vient entre les possibles, intensifiait le bégaiement et la force de sa voix. Hagarde, épuisée, la malheureuse vendeuse transportait son escabeau d'une étagère à l'autre, se saisissait d'un nouveau carton, en sortait une autre paire que ma mère récusait. J'essayais, je m'épuisais moi aussi à essayer. Des souliers m'avaient plu, qu'elle avait éliminés. Je voulais tellement en finir que je m'extasiais devant chaque nouveau modèle. Le temps passait, s'écoulait de plus en plus lentement. Les collègues de notre vendeuse s'étaient arrêtés de travailler, elle regardait, nous regardait, les clients regardaient aussi. Paulette ne voyait rien de ce qui advenait. La panique commença à me gagner. Je voyais et entendais ce qu'ils entendaient et voyais tous le bégaiement spectaculaire, l'énorme nez juif de ma mère, complètement inconsciente de la situation, du danger objectif qu'elle nous faisait courir à tous deux. Un chef de rayon arriva, l'air hostile, la dévisagea longuement et lui demanda « Quelque chose ne va pas, madame ?» Je retrouvais au bas d'une pile mes brodequins provinciaux et cédant à mon affolement maintenant incontrôlable, slalomais à toutes jambes à travers le magasin jusqu'à une sortie, je pris la fuite. Je ne cessais de courir que loin du magasin tant j'avais peur qu'elle me rattrape, d'avoir à cheminer à ses côtés, à prendre avec elle le métro en essuyant les manifestations fulminantes de sa colère. Il y eut, dans l'histoire de la question en France, un supplice fameux, dit des brodequins, destiné à briser les tibias de ceux qu'on voulait faire avouer. 4 coins, enfoncés au marteau, entre l'os et l'étau de planche, qui enserraient le mollet pour la question ordinaire, 8 coins pour la question extraordinaire. Longtemps, évoquant ce sinistre épisode des chaussures André, je l'appelais, par devers moi, la journée du supplice des brodequins. Il n'y a pas à rire. Je n'ai pu m'empêcher d'abandonner ma mère, de la laisser seule, dans une situation très dangereuse, parce qu'elle me mettait moi-même en danger. Elle me faisait peur. Elle me faisait honte. Je me suis conduit, cet après-midi-là, en véritable antisémite, dans sa variante à mes yeux la plus répugnante, le juif antisémite. Il n'y a pas à ergoter là-dessus. Aucune de mes excuses ne tient. Et toute la scène du magasin que je viens de décrire, comme si je cherchais à expliquer et justifier ma lâcheté, a engendré ma fuite par une concaténation de raisons, ne lavera pas plus l'horreur de mon acte que les parfums de l'Arabie ne purifieront les mains sanglantes de Lady Macbeth. J'ai écrit plus haut que pendant l'année 1938, la seule qu'entre deux séjours à Brioude nous passâmes à Paris avec mon père et la belle Hélène, sa nouvelle compagne, j'avais pu mesurer la force et la violence de l'antisémitisme au lycée Condorcet. Mais je pris aussi la mesure de la terreur et de la lâcheté qui m'habitait. Caché derrière un pilier de la cour de récréation, j'assistais, pétrifié, sans intervenir et craignant d'être découvert, au quasi-lynchage d'un grand rouquin juif nommé Lévi, qui avait tous les traits des caricatures antisémites d'avant-guerre. Ils étaient 20 contre 1. Le mettait en sang. Lévi tentait seulement d'esquiver, sans se défendre, ni rendre les coups. Les surveillants laissaient faire, et c'était devenu un rituel. Un jour par semaine au moins, il se faisait le juif. La peur régnait. Je me souviens qu'en classe, tandis qu'un professeur commentait la livre de chair de Shylock dans Le Marchand de Venise, un de mes condisciples se retourna vers moi et me susurra dans un sifflement de ses dents serrées « Mais toi aussi, tu es un petit juif !» Au lieu de bondir sur lui et de le gifler, je protestais et niais, écartant l'insulte comme si je répondais à une question de fait, objectivement et gentiment posée. « Mais non, je ne suis pas juif !» Tout cela n'est pas neuf. C'est une très ancienne histoire, inscrite dans nos gènes, difficile à comprendre aujourd'hui tant les circonstances sont autres. De Groutel, hameau primitif d'une dizaine de fermes, entre Le Mans et Alençon, où mes grands-parents paternels s'étaient retirés, ma grand-mère Anna, native de Riga, parfaitement analphabète en français, demanda à mon père, dès mon entrée en classe de sixième, que je lui écrive des lettres en latin, qu'elle ne savait pas plus lire que le français. J'étais, je l'ai dit, un enfant docile et je m'exécutais. J'adressais donc à Anna, née Ratu, des missives en latin de cuisine. Qu'en faisait-elle ? Elle parcourait les 6 kilomètres de la route, détrempée ou poussiéreuse, qui reliait Groutel à la paroisse la plus proche, Champfleur, demandait dans l'inimitable sabir qui était le sien lorsqu'elle s'exprimait autrement qu'en yiddish, à voir monsieur le curé. Elle exhibait alors, en rosissant de fierté, ma dernière catilinaire. « Regardez, monsieur le curé, mon petit-fils, il écrit le latin. » Mon latin de cuisine décernait à Anna je ne sais quel brevet de vieille francité, et marquait d'éclatante façon que les diastases de l'assimilation étaient à l'œuvre, nimbait le chef de ma terrible grand-mère d'une auréole de conformité. Voilà.
Et place à la première projection. Monsieur Didier Sicard, donc nous allons écouter maintenant.
Bien, après ce film qui montre, que vous découvrez probablement comme moi, montre l'étendue des capacités d'intervieweur de Claude Lanzmann qui était capable de faire sortir, de faire émerger chez son interlocuteur une vérité enfouie. Et j'ai choisi quelques lignes d'un passage bouleversant de Shoah que dans le livre du Lièvre de Patagonie, Claude Lanzmann restitue sur la façon dont il a obtenu l'intériorité d'un survivant. Il y a véritablement deux moments dans cette longue séquence. Au commencement de son récit, Abraham adopte un ton neutre, objectif, détaché, comme si tout ce qu'il doit raconter ne le concernait pas, comme si l'horreur allait pouvoir s'engendrer sans son implication, harmonieusement presque. Mais les questions ne lui permettent pas. Mes questions ne lui permettent pas de continuer comme il le voudrait. Elles sont d'abord topographiques, réclamant des précisions d'espace et de temps. J'en pose une, incongrue, absurde. Est-ce qu'il y avait des miroirs dans la chambre à gaz ? Sachant parfaitement, j'ai vu des chambres à gaz à Auschwitz et à Majdanek qui n'avaient rien d'autre que des murs nus. Par contre, le salon de coiffure où nous tournions est tapissé de miroirs et les gestes s'y reflètent à l'infini. Ces questions permettent la recréation la plus exacte possible des lieux et de la situation, mais elles m'autorisent aussi à oser aborder l'interrogation la plus difficile qui ouvre le deuxième moment de la séquence. Qu'avez-vous éprouvé la première fois que vous avez vu déferler dans la chambre à gaz toutes ces femmes nues et ses enfants nus également? Abraham esquive, répond à côté. La conversation se poursuit par d'autres précisions sur la coupe des cheveux destinée à leurrer les femmes aux derniers instants de leur vie en leur faisant croire, à cause de l'utilisation des ciseaux et de peignes et non d'une tondeuse, qu'il s'agit d'une coupe normale, comme la pratiquent les coiffeurs pour hommes. À cet instant, quelque chose sur le visage de Bomba, dans le timbre de sa voix, dans les silences qui espaçaient ses paroles, m'alerta. Une tension visible, palpable, montait dans la pièce. J'ignorais quoi, quand, j'en étais pas sûr, mais j'eus le sentiment qu'un événement essentiel allait pouvoir se produire. J'étais placé juste derrière le caméraman et je pouvais lire sur le compteur de la caméra combien de minutes de pellicule vierge restaient dans le magasin. 5 minutes. C'est beaucoup, c'est peu. J'obéis à une intuition brutale et je dis à voix basse à Chapuis, on coupe et on recharge immédiatement. Avec la caméra 16 mm, à hâtons que j'utilisais, il faut changer de magasin toutes les 11 minutes. Des magasins pleins étaient prêts, le changement s'opéra en un éclair et la conversation se poursuivit comme s'il n'y avait eu aucune interruption. Bomba ne s'en avisa pas. Après un temps, je reposai la question laissée sans réponse. Celle-ci fut magnifique et bouleversante. Il ne biaisa pas. « Oh, vous savez, ressentir là-bas, c'est quand même très dur de ressentir quoi que ce soit. Imaginez, travailler jour et nuit parmi les morts, les cadavres, vos sentiments disparaissaient. Vous étiez mort aux sentiments, mort à tout. » Puis il ajouta, « Je vais vous raconter quelque chose qui s'est produit pendant que je travaillais à la chambre à gaz. » Quand sont arrivées des femmes de ma ville natale que je connaissais, qui me connaissaient. À cet instant précis, ce mort au sentiment fut submergé par le sentiment avec une violence telle qu'il ne put aller plus loin, faisant de la main un petit geste qui signifiait à la fois la futilité et l'impossibilité de continuer à raconter, et aussi, ce qui est la même chose, l'impossibilité, la vanité de comprendre. La scène est célèbre. Abraham efface d'un coin de serviette les larmes qui perlent à ses yeux, se mure dans le silence, tout en continuant à tourner ciseaux en main autour de la tête de son ami, et tandis qu'il tente de se ressourcer, parlant à ce dernier en yiddish d'une voix confidentielle, s'instaure alors, entre lui et moi, le dialogue de deux suppliants, lui me pressant d'arrêter, moi, l'exhortant fraternellement à poursuivre, parce que je considère qu'il s'agit de notre tâche commune, de notre devoir partagé. Tout ceci advint au moment où il n'y avait plus de pellicule dans la, s'il n'y avait pas eu de pellicule dans la caméra, si je n'avais pas donné l'ordre de recharger. C'eût été une irréparable perte, car je n'aurais jamais pu demander à Bomba, comme cela se peut dans une répétition de théâtre, de recommencer à pleurer. La caméra ne s'est pas arrêtée de tourner. Les larmes d'Abraham étaient pour moi précieuses comme du sang. La scène, le sceau du vrai, l'incarnation même. Certains ont voulu voir dans cette scène périlleuse la manifestation de je ne sais quel sadisme en moi, alors que je la tiens au contraire, pour le paradigme de la piété, qui ne consiste pas à se retirer sur la pointe des pieds face à la douleur, mais qui obéit d'abord à l'impératif catégorique de la recherche et de la transmission de la vérité. Bomba m'étreignit longuement après le tournage, et plus encore après avoir vu le film. Nous passâmes plusieurs jours ensemble à Paris. Il savait qu'il resterait comme un héros inoubliable.
Durant toutes les années qui précédèrent la très austère retraite imposée par la réalisation de Shoah, je n'eus jamais le désir de revoir la Chine. D'autres pays, d'autres continents me sollicitaient. Il fallut, pour que j'y retournasse, une occasion majeure. Elle se présenta 20 ans après la sortie de Shoah. Des cinéphiles chinois avaient eu l'occasion de voir le film dans des festivals, dans des salles de cinéma d'Europe, d'Amérique et même du Japon, que le film, après de surprenantes péripéties, avait atteint 10 ans plus tôt. Un génie de la traduction, Wang Qianming, avait établi à lui seul le sous-titrage intégral. Je l'avais rencontré à Cannes en mai au festival et je doutais qu'il puisse terminer pour septembre, mois du premier festival de films documentaires organisé en Chine que Shoah devait ouvrir. Il le fit, à la perfection sans doute, même si je n'eusse aucun moyen de vérifier la qualité de son travail. C'est lui qui était mon interprète dans les conférences que je donnais là-bas. Interprétation non simultanée, mais consécutive. Il prenait des notes, je parlais 20 minutes, puis il traduisait durant un temps au moins égal. Et j'eus le sentiment qu'il n'omettait jamais rien. Me repérant à quelques noms propres qu'il était contraint de garder en français. Sa seule faute, mais grave, dont je ne m'avisais pas immédiatement, fut d'avoir traduit en chinois le nom intraduisible et éponyme de Shoah. Je confesse que j'étais émue lorsque je voyais les idéogrammes chinois à l'écran sous les paroles de Philippe Müller, d'Abraham Bomba ou de Rudolf Verba. dans des immenses salles comblées de gens du cinéma et d'étudiants de toutes disciplines. À ceux qui, me parlant des Chinois ou des Japonais, m'avaient répété à satiété qu'ils ne pourraient jamais rien comprendre à un film comme Shoah, que ce n'était pas leur expérience, pas leur monde. J'avais toujours répondu avec entêtement, mais pourquoi ? Il n'y a qu'une humanité. Si je suis capable, moi, d'être profondément remuée par un film d'Ozu comme Voyage à Tokyo, je ne vois pas pourquoi un Japonais ou un Chinois ne pourrait pas l'être de la même façon par Shoah. C'est toujours le particulier qui fait accéder, le plus particulier qui fait accéder à l'universel. Cela s'appelle l'universel concret. Je me souviens de mon bouleversement, de mon admiration pour un film turc, Yol, de Yılmaz Güney, épousant chaque moment de la permission, de la semaine de permission, chaque heure de la semaine de permission de détenus d'une prison d'Ankara, retournant chez eux dans les montagnes enneigées et glaciales du Kurdistan. Ces hommes si éloignés de moi m'étaient pourtant très proches et fraternels. Bien qu'ils aient été formés par d'implacables traditions qui ordonnent la tragédie sur laquelle le film se conclut. Jamais je ne compris aussi bien que les humains sont humains parce qu'ils ont la capacité de transformer en valeur ce qui les opprime et de s'y sacrifier. C'est l'humanité même. Cela peut s'appeler aussi, on l'a vu, tradition. Et plus encore, culture. À Nankin, ancienne capitale impériale à jamais marquée par le grand massacre de 1937, je répondis jusque tard dans la nuit aux questions des étudiants de cinéma de l'université. Ils avaient vu Shoah la veille et l'avant-veille. J'étais saisie par la précision et la subtilité de leurs remarques et par le souvenir intact qu'ils avaient gardé du film, des lieux et des protagonistes. Soudain, une étudiante me demanda « Quel conseil me donneriez-vous si je voulais faire un film sur le massacre commis par les Japonais ici ?» J'ai cru un instant que je ne pourrais lui répondre tant sa demande était générale. Puis la présence d'esprit m'étant revenue, je lui répliquais du tac au tac « Allez au Japon !» Cela sembla les illuminer tous. Nul n'y avait pensé, n'avait pu y penser. Je leur racontais alors longuement, traduit par Chang, ce qui s'était passé pour moi avec l'Allemagne et avec la Pologne. Ce sont de jeunes amis que je quittais pour gagner Shanghai. Je voulais revoir le Huangpu et le Bund. Presque 50 ans après, la métamorphose de la Chine me sauta au visage, m'enthousiasma. Je n'en dirai rien, sauf ceci. À Shanghai, j'ai pris un bateau qui descendait le Huangpu jusqu'à sa confluence avec le Yangtze-Kiang quand ces deux fleuves deviennent une mer sans rivage. Pendant les 3 heures de navigation, on éprouve physiquement la puissance de la Chine, la conscience qu'elle a de cette puissance et sa manière orgueilleuse de nous le montrer. J'ai beau connaître depuis toujours le bateau ivre de Rimbaud, cet après-midi-là, c'est seulement cet après-midi-là, en descendant le Wangpo, de plus en plus large au fur et à mesure qu'on s'approche de son estuaire, dans un extraordinaire concours de navires civils ou militaires, marchands ou touristiques de toutes longueurs, tailles et formes, longeant des chantiers navals géants qui semblent se défier les uns les autres avec leurs rougeoyantes enseignes comme des langues de feu, que j'ai vraiment compris les derniers vers du grand poème. Je ne puis plus baigner de vos langueurs, ô lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons. »